Jean-Roger Billon à ce micro pour Le Monde Aujourd'hui, au sommaire de cette édition du jeudi 15 février 2024. Au Burkina Faso, grève des avocats pour la libération d'un confrère détenu. Au Sénégal, médiation tous azimuts pour trouver une issue à la crise politique avec une rumeur persistante de la libération éventuelle de l'opposant Ousmane Sonko.
Le régime en place monte une ouverture pour que Sonko soit réhabilité.
Mamadou Tio, journaliste sénégalais, fera le point dans la partie magazine. Dans l'est de la République démocratique du Congo, deux soldats sud-africains ont été tués par des tirs indirects. Réunion aujourd'hui entre la Maison-Blanche et des élus du Congrès pour une séance d'explication sur une menace urgente à la sécurité nationale. Les forces israéliennes disent avoir pénétré dans l'hôpital Nasser de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, pour une opération précise et limitée visant le Hamas. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute écho. Pour l'instant, le journal. Des ministres du Burkina Faso, du Mali et du Niger, trois régimes militaires regroupés au sein de l'Alliance des États du Sahel, se sont réunis aujourd'hui à Ouagadougou en vue de créer une confédération. Ouagadougou nous offre aujourd'hui l'occasion de franchir un pas supplémentaire dans la poursuite de la mise en place des instruments, mécanismes et procédures de notre alliance ainsi que dans l'architecture juridique de la confédération envisagée par nos trois États, a déclaré le ministre burkinabé de la Défense, le général Kassoum Koulibaly. Dimanche déjà, le chef du régime militaire nigérien, le général Abdourahmane Tiani, a évoqué la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali comme une étape de sortie de la colonisation. Toujours au Burkina Faso, les avocats sont en arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire. Ils exigent la libération de Maître Guy Hervé Kam, un arrêt de travail suivi à la lettre. Le point avec Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou.
Les tribunaux sont vides, les procès sont reportés parce que les avocats sont absents dans plusieurs juridictions du pays. Les avocats burkinabés observent un arrêt de travail de 24 heures sur toute l'étendue du territoire pour exiger la libération d'un de leurs collègues, Maître Guy Hervé Kam. Le débrayage est suivi à 100%, confie le bâtonnier Maître Siaka Niamba. Selon la note de l'ordre des avocats, cet arrêt de travail est observé dans le cadre des actions engagées pour exiger la libération sans condition de leur confrère Maître Guy Hervé Kam. L'avocat a été interpellé dans la nuit du 24 au 25 janvier à l'aéroport de Ouagadougou. Dès le lendemain, le barreau avait déjà exigé sa relâche immédiate et sans condition. Mais Maître Guy Hervé Kam est depuis détenu dans un lieu inconnu, tout comme une dizaine de Burkinabés, parmi eux certains réquisitionnés pour le front, notamment Blaise Ouédraogo, ancien ministre des Affaires étrangères, et Daouda Diallo, militant des droits de l'homme. Lamine Traoré, Ouagadougou. Afrique.
L'Union africaine se réunit en sommet à Addis Abeba ce week-end dans un contexte difficile, à l'heure où l'organisation veut porter la voix du continent au sein du G20 qu'elle a intégré en septembre et que l'organisation fait face à de nouveaux coups d'État et la crise au Sénégal notamment. L'Union africaine a toutefois réussi à s'éviter une crise en désamorçant en amont du sommet les tensions sur la succession du chef de l'État comorien Azali Assoumani à la présidence tournante de l'organisation. Après des mois d'intenses tractations, le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani devrait être élu par ses pairs dimanche. Le Nigeria envisage d'introduire des polices d'État dans ses 36 États afin de renforcer sa police nationale alors qu'il s'efforce de contenir la violence et l'insécurité généralisée, a déclaré ce jeudi le ministre de l'Information. C'est la première fois que le gouvernement fédéral et les gouvernements des États du Nigeria s'accordent sur la nécessité de mettre en place une police d'État pour renforcer la police nationale, forte de plus de 300 000 hommes dans le pays le plus peuplé d'Afrique. L'armée sud-africaine a annoncé aujourd'hui que deux de ses soldats ont été tués et trois autres blessés par un obus de mortier qui a atterri à l'intérieur d'une base militaire en République démocratique du Congo, où ses troupes aident à combattre des groupes armés, davantage avec Nani Talani.
Une bombe tirée au mortier a atterri dans l'une des bases du contingent militaire sud-africain et a fait des victimes et des blessés parmi les soldats de l'armée sud-africaine, a déclaré Pretoria ce matin. À la suite de ces tirs indirects, la SANDEF déplore des décès et des blessures graves. Les blessés ont été transportés à l'hôpital de Goma et une enquête sera menée pour déterminer ce qui s'est passé. L'Afrique du Sud a commencé à déployer 2 900 soldats dans l'est de la RDC à la mi-décembre dans le cadre d'une force sous l'égide de la SADC, comprenant des militaires du Malawi et de la Tanzanie chargés d'aider la RDC à lutter contre les rebelles du M23. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a réagi en défendant la mission et en rappelant que l'Afrique du Sud, en tant que membre de la SADC, avait le devoir de fournir des troupes. Dans toute situation de conflit, il y en a qui tombent. Nous nous inclinons devant ceux qui sont blessés et ceux qui ont pu tomber, a-t-il affirmé lors d'un discours devant le Parlement.
9 migrants qui tentaient de rallier clandestinement l'Europe ont péri dans une embarcation à la dérive au large de la Tunisie à la suite d'une avarie, ont indiqué aujourd'hui les autorités tunisiennes. Selon des médias, le bateau est parti des côtes libyennes. La garde nationale a affirmé dans un communiqué que l'embarcation avait subi une avarie causée par une voie d'eau.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
De nouvelles frappes israéliennes ont visé aujourd'hui le sud de la bande de Gaza, où Israël a promis de mener une puissante opération terrestre dans la ville surpeuplée de Rafah, malgré les pressions internationales qui se multiplient. Dili Diko.
Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, veut maintenant détruire le dernier bastion du Hamas à Rafah, devenu l'ultime refuge pour des centaines de milliers de civils. Pendant que les négociations se poursuivent au Caire en vue d'une trêve, les appels se multiplient à travers le monde contre une telle opération. L'armée israélienne a affirmé avoir des renseignements crédibles sur des otages retenus dans le plus grand hôpital de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, théâtre d'intenses combats ces dernières semaines. Israël a aussi mené une frappe mercredi soir au sud du Liban sur un bâtiment dans la ville de Nabatieh, dans lequel 7 membres d'une même famille, tous des civils, ont péri. 3 membres du Hezbollah pro-iranien, incluant un responsable militaire, blessés dans une attaque de drone dans la même ville le 8 février, ont été tués.
Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, rencontre aujourd'hui des dirigeants du Congrès et des responsables du renseignement et de la défense. Hier, le président de la commission du renseignement de la Chambre a appelé le président Joe Biden à divulguer des informations classifiées sur une menace urgente à la sécurité nationale américaine. Nathalie Barge.
Lors d'un point de presse de la Maison-Blanche, Jake Sullivan s'est dit surpris de la déclaration publique du républicain Mike Turner appelant l'administration à déclassifier les détails d'une menace étrangère non spécifiée. Ce dernier a demandé à ses collègues du Congrès de se rendre d'urgence dans une salle sécurisée pour recevoir un briefing classifié sur ce qu'il qualifie de capacité militaire étrangère déstabilisatrice. Soulignant que cette décision appartient au président Biden, M. Sullivan a toutefois estimé important de pouvoir se concerter avec les dirigeants du renseignement de la Chambre. Selon des sources informées, les tentatives russes de développer une arme spatiale anti-satellite ne constituent pas une menace urgente pour les États-Unis, cette capacité n'étant pas encore en orbite. Ces dernières années, la Chine et la Russie ont recherché de nouvelles façons de brouiller les satellites, d'intercepter leurs signaux, de les aveugler, voire de les sortir de leurs orbites programmées. La Force spatiale américaine, créée en 2019, forme des troupes capables de détecter ces capacités et de se défendre contre de telles menaces.
Donald Trump va comparaître au pénal le 25 mars à New York dans l'affaire des paiements à Stormy Daniels, ancienne actrice de films pornographiques, une première pour un ancien président américain. Il s'agit de l'une des 4 comparutions au pénal auxquelles Donald Trump doit faire face alors qu'il brigue l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle du 5 novembre prochain. Donald Trump a répété que l'affaire était motivée par des considérations politiques. Le ministre de la Défense indonésien, Prabowo Subianto, apparaît bien placé ce jeudi pour prendre en octobre les commandes de la première économie d'Asie du Sud-Est au lendemain de l'élection présidentielle, même si ses rivaux n'ont pas encore reconnu leur défaite. Et selon le décompte officiel partiel de la commission électorale, Prabowo recueille 24% des voix sur 43,5% des bulletins dépouillés. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Michel Joseph.
En Afrique du Sud, le ministère des Ressources minérales et de l'Énergie a lancé la 7e fenêtre d'appel d'offres du programme d'approvisionnement des producteurs indépendants d'énergie renouvelable. Le gouvernement sollicitera des offres pour le développement de 3200 MW d'énergie éolienne et 1800 MW d'énergie solaire. L'objectif est d'acquérir près de 15 000 MW de nouvelles capacités de production et de stockage. Le système électrique dépend principalement de centrales à charbon. Le fonds de l'OPEP a approuvé un financement de plus de 600 millions de dollars pour 18 projets de développement social et économique durable dans ces pays partenaires, notamment dans les secteurs des transports, de la santé, de l'éducation et de l'énergie. Une facilité de financement de 40 millions de dollars favorisera la commercialisation des produits agricoles bénéficiant à 600 000 petits exploitants en Afrique subsaharienne. La plateforme de commerce électronique Jumia a annoncé la fermeture de sa branche Jumia Food d'ici décembre. La compagnie veut concentrer ses efforts sur le commerce électronique. Lancée en 2012 à Lagos, au Nigeria, Jumia est la première licorne du continent depuis 2016. L'entreprise a levé plus d'1 milliard de dollars pour soutenir sa croissance et elle est cotée depuis 2019. Jumia Food est présente dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Tunisie et l'Algérie.
Place maintenant au sport avec Nani Talani. Bonsoir Nani.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Au Ghana, des centaines de supporters de football sont descendus hier dans les rues de la capitale pour réclamer une meilleure gouvernance du football après l'échec de leur équipe dès la phase de groupe de la CAN en Côte d'Ivoire.
Oui, Jean-Roger, vêtus de t-shirts noirs et rouges, proclamant « Sauvons le football du Ghana » et brandissant des pancartes, les manifestants ont défilé dans les rues principales pour montrer leur frustration face aux mauvaises performances des Black Stars lors des récents tournois majeurs. Le football ghanéen est aujourd'hui confronté à une période sombre de son histoire, ont déclaré les manifestants dans une pétition soumise au Parlement. Ils ont exigé l'ouverture d'une enquête sur la participation du Ghana à la Coupe du Monde 2022 et à la CAN 2023, après surtout des allégations de corruption et de gaspillage de la part de la Fédération de football lors des tournois. Ils ont également appelé à une politique nationale du football, à des investissements accrus et à des améliorations de la ligue locale.
Mercato, direction le Brésil pour le Congolais Yannick Bolasie.
En effet, l'international congolais Yannick Bolasie, 34 ans, doit partir pour le Brésil la semaine prochaine. Selon un journal italien, il a conclu un pré-contrat avec la première division brésilienne. Né en France et élevé en Angleterre, il joue pour l'équipe nationale de la RDC. Yannick Bolasie a joué dans plusieurs clubs anglais. Il est libre de tout contrat depuis janvier dernier.
Badminton, championnat d'Afrique, l'Algérie attend son adversaire en finale.
La sélection algérienne masculine de badminton a validé effectivement son ticket pour la finale du championnat d'Afrique de ce sport qui se joue actuellement au Caire en Égypte après avoir battu l'île Maurice 3-1 hier. Les Fenecs du badminton attendent le vainqueur de la demi-finale entre l'Égypte et le Nigeria. Ils ont terminé leader du groupe A avec 6 points devant l'Ouganda, la Zambie et l'Égypte.
Athlétisme, décès d'Henri Renault, le Kenya aux 4 records du monde.
Ce coureur de fond et demi-fond est mort à 72 ans après une hospitalisation de 10 jours, a annoncé ce jeudi la Fédération kényane d'athlétisme. Henri Renault était l'homme aux 4 records du monde en 81 jours. Au printemps 1978, alors qu'il était étudiant aux États-Unis, Henri Renault avait coup sur coup battu les records mondiaux des 3000 mètres, 3000 mètres steeple, 5000 mètres et 10 000 mètres. L'ancien athlète, longtemps basé aux États-Unis, était rentré dans son pays natal après avoir passé en 2019 un appel à l'aide financière auprès du gouvernement kényan.
Page de sport VOA Afrique signée Nani Talani.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Lyon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, depuis la mise en place d'une commission parlementaire d'enquête sur le Conseil constitutionnel, le président Macky Sall a décidé de reporter l'élection présidentielle qui était prévue le 25 février. Une forte rumeur circule sur l'éventuelle libération de l'opposant Ousmane Sonko et beaucoup de Sénégalais ont maintenant le regard tourné vers la Cour constitutionnelle. Idriss Fall a joint à Dakar Mamadou Tior, journaliste et président du CORED.
Le Conseil constitutionnel peut avoir deux postures. Soit, comme il le fait très souvent, se déclarer incompétent par rapport à ces pouvoirs-là. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il faudra attendre le 15 décembre pour la tenue de l'élection présidentielle. Soit, il se déclare compétent et annule cette loi-là en proposant une nouvelle date pour le scrutin qui ne sera pas le 15 décembre. Et la deuxième option est fondée sur le fait que en 2016, il y a eu, lors du référendum, ce qu'on appelle des clauses d'éternité qui ont été introduites dans certaines dispositions de la Constitution. C'est notamment le mandat qui est de 5 ans. On ne peut plus changer ça pour l'éternité. Et au bout de deux mandats, il faudra donc laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est des clauses d'éternité. Et la nature républicaine du Sénégal, ça aussi, on ne peut pas changer ça.
Si jamais le Conseil reporte les élections, il y a les contentieux Sonko, les contentieux Karim Wade, il faudra revoir la liste des candidats.
Si le Conseil opte pour une nouvelle date, le 25 février, ce n'est plus tenable, effectivement, on va reprendre à zéro, même si on va léser quand même les 20 candidats qui ont été retenus pour le 25 février. Dans ce cas-là, on va lorgner pour les deux cas que vous venez de citer, Karim Wade et surtout Ousmane Sonko, qui seront partants parce que le régime en place monte une ouverture pour que Sonko soit réhabilité et puisse se porter candidat pour l'élection présidentielle à venir. Et ce sera le cas aussi pour Karim Wade.
Qu'en est-il de Sonko? Il y a beaucoup de rumeurs de son éventuelle libération.
De plus en plus, le régime agite l'amnistie. Parce qu'en l'état actuel, c'est peut-être la seule solution qui s'offre pour réhabiliter Ousmane Sonko. Par rapport à l'année, par exemple, l'affaire Agissar, même si on dit que le compte est accepté pour cette affaire-là, il faudra un nouveau procès. Mais l'affaire Mambanyan, l'affaire a été jusqu'à la Cour suprême. Il doit rester 5 ans pour inéligible. Donc la seule façon, c'est peut-être d'aller vers une loi d'amnistie pour remettre les choses à plat. Parce que ce qui est un peu difficile pour le cas Sonko, c'est les autres cas criminels pour lesquels il est poursuivi. Tous ces violences meurtrières qui a eu depuis mars 2021, le procureur le tient pour responsable. Et ça, si ce dossier-là est instruit, ça veut dire qu'il en a pour plusieurs années en prison. Et sa carrière politique sera sérieusement compromise. Donc, l'option, c'est un peu cette loi d'amnistie-là. Mais il faudra attendre de voir qu'est-ce qui sera mis dans cette loi-là. Parce que si c'est pour mettre d'autres crimes durant le règne de Macky Sall, ça peut fâcher pas mal de gens ici au Sénégal.
Mamadou Tior, journaliste et président du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'accès à l'aide humanitaire à Goma et dans des zones en conflit suscite de sérieuses inquiétudes. Le Conseil norvégien pour les réfugiés évoque un manque de ressources pour assister les populations qui sont dans le besoin. Antoine Roger Bolamba a joint Joachim Germinadi, conseiller régional pour le plaidoyer pour l'Afrique centrale et de l'Ouest basé à Goma.
La situation dans ces moments à Goma et dans les alentours, c'est une situation très préoccupante. On voit une escalade des violences et du conflit avec beaucoup de combats et des affrontements qui créent beaucoup de déplacements. Donc dans ces moments, on a plusieurs centaines de milliers des personnes déplacées qui sont en train d'arriver. Dans les dernières semaines, on a vu 135 000 personnes juste dans la première semaine de février qui sont arrivées juste à côté de la ville de Goma, une ville qui est déjà à presque 2 millions de habitants. Et donc, c'est une situation très, très grave, très compliqué. Au même temps, il faut aussi se rappeler que Goma est un peu l'hub régional pour la réponse humanitaire, pas juste dans le nord Kivu, mais aussi dans le reste de l'est du Congo. Et donc, le conflit qui s'approche à Goma peut aussi avoir un impact domino sur le reste de la région.
Effectivement, mais quelle est la situation actuellement avec l'accès à l'aide humanitaire? Est-ce que la population qui est dans le besoin a l'accès facile à l'aide humanitaire?
L'accès à l'aide humanitaire dans ces moments est très compliqué. Il y a vraiment deux raisons pour ça. La première, c'est les combats, la non-sécurité. Dans ces moments, on peut dire que dans les terroirs à côté, le territoire à côté de la ville de Goma, il y a plus ou moins 600 000 personnes qui sont dehors de l'accès à l'assistance. Et ça, c'est en raison de l'insécurité. Au même temps, on a aussi des problématiques liées à l'accès aux services et aux besoins de base autour de la ville de Goma. Et ça, c'est en raison des routes qui sont coupées dans ce moment. La ville de Goma est complètement isolée du reste du Congo, du reste du pays. La seule façon pour arriver à Goma dans ce moment, c'est par les lacs. Et donc, c'est très difficile de porter de l'assistance pour ces personnes, en particulier pour tout ça qui est assistance de la nourriture.
Et qu'est-ce que vous pouvez formuler comme demande au gouvernement congolais, par exemple?
Tous les partis au conflit sont responsables de la protection des civils dans des situations de conflit. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et comme je disais, voilà, l'accès humanitaire, c'est vraiment fondamental que les organisations humanitaires nationales et internationales pouvant avoir accès à toutes les populations dans les maisons. Et on rappelle qu'il y a des besoins vraiment urgents, donc la santé, la nourriture et les abris qui sont vraiment pressants et vraiment graves.
Joachim Gérard-Minardi du Conseil norvégien pour les réfugiés.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Un nouveau rapport indique que l'agroalimentaire en Afrique, la transformation, l'emballage et la vente des aliments produits localement pourraient être la clé pour stimuler l'emploi, les revenus et la sécurité alimentaire. Le reportage de Mohamed Youssouf, le récit est de Rosine Monezero.
Des experts en agriculture, ingénierie, écologie, nutrition et sécurité alimentaire ont dévoilé mercredi un rapport de 140 pages en Ouganda examinant les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les compétences nécessaires pour les emplois dans le secteur agroalimentaire. Roda Tumushime, ancienne commissaire à l'économie rurale et à l'agriculture de l'Union africaine.
Food trade provides an opportunity for youth.
Le commerce alimentaire offre aux jeunes la possibilité de créer des emplois dans l'agro-industrie et d'améliorer le développement socio-économique. Les investissements dans l'agro-transformation et la force et les liens en amont vers le marketing et le commerce et les liens en aval vers la production qui résultent de ces chaînes de valeur deviendront un secteur central de création d'emplois.
Le rapport donne des exemples. En Zambie, les autorités ont lancé Yapasa, un projet visant à accroître les revenus des jeunes ruraux. Ce projet encourage la collaboration entre les différents acteurs du secteur agricole, principalement les petits exploitants, et l'amélioration des relations entre les petits producteurs et les grandes entreprises agroalimentaires. En coordination avec l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'Organisation internationale du travail et le gouvernement zambien, Yapasa a créé 3 000 emplois et amélioré 5 000 entreprises rurales dirigées par des jeunes. Selon la Banque mondiale, les marchés combinés de l'alimentation et des boissons en Afrique devraient être évalués à 1 000 milliards de dollars d'ici à 2030. Ousmane Badiane est le coprésident du groupe d'experts qui a publié le rapport.
Il sera important de rendre les politiques beaucoup plus sensibles aux besoins et aux ambitions des jeunes. Il sera extrêmement important de créer un espace d'engagement avec les jeunes. Pour soutenir tout cela dans les deux dernières décennies à venir, il faudra être capable de soutenir la croissance dans le contexte d'un climat changeant non seulement en termes d'adaptation et de résilience, mais aussi en étant capable de trouver de nouvelles façons de faire des affaires.
Selon la Banque africaine de développement, 11 millions de jeunes entrent chaque année sur le marché du travail à la recherche d'un emploi, mais seuls 3 millions d'emplois formels sont créés chaque année. En Afrique, 120 millions de personnes âgées de 15 à 35 ans sont au chômage. Dorothy Okello, professeure d'ingénierie à l'université de Makerere en Ouganda, a déclaré à VOA qu'il était nécessaire d'établir un lien entre les opportunités dans le domaine de l'agriculture et le niveau d'études des étudiants.
Can we have, for example,
nous pouvons avoir, par exemple, une ubérisation, si je peux utiliser ce mot, des services de tracteurs. Vous savez, des services tels qu'un tracteur chargé ou un tracteur est mis à la disposition d'un certain nombre d'agriculteurs. Comment pouvons-nous utiliser l'ingénierie de manière créative pour trouver des solutions à ce problème? Si je peux me permettre, je m'adresse aux personnes qui travaillent dans le domaine de la création, des beaux-arts ou de l'art industriel. En fin de compte, lorsque j'ai mon produit et que je veux le commercialiser, comment dois-je le présenter pour améliorer son pouvoir d'attraction sur le marché?
Les experts appellent les gouvernements africains à donner plus de pouvoir aux jeunes en s'attaquant aux barrières commerciales, en investissant dans la technologie et en impliquant les jeunes dans la formulation des politiques et la prise de décision.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Du 6 au 12 février a eu lieu à Bamako, au Mali, la deuxième conférence internationale des détenteurs de savoirs occultes, avec la participation de plusieurs dignitaires africains, dont des rois, des reines, des princes et princesses, des détenteurs de savoirs occultes, des leaders religieux et des donzos venus des quatre coins d'Afrique. Le professeur Mamadou Babou Niang a doté les détenteurs du savoir africain d'un siège flambant neuf. Il explique au micro de Modibo Dembélé les motivations de la rencontre et la création du Centre pour la promotion du savoir occulte africain.
Mais c'est ce qui est normal, parce que c'est notre culture. Nous sommes des Africains. Il est temps que nos connaissances, que nos ancêtres nous ont léguées, qu'on essaie de mettre en valeur.
Et quelles sont les disciplines qui seront enseignées dans ce centre au Mali, dans les sièges sociaux au Mali?
Disciplines, que ce soit la télépathie, le magnétisme, le fakirisme, l'illusion, l'hypnotisation, mais à l'africaine.
Et que répondez-vous à vos détracteurs qui disent que ces sciences ne sont pas réelles?
Bon, ça ne regarde que, parce que vous savez, si vous abandonnez votre culture et allez prendre la culture d'autrui, donc c'est toujours comme ça. On a vu, il n'y a pas très longtemps, un chef d'État dire que l'Afrique n'a pas de culture, que l'Afrique ne fait même pas partie de la civilisation. Donc il est temps que nous, la connaissance que nos ancêtres nous ont laissée, qui répond de la magie rouge, de la connaissance des plantes et des animaux, qu'on essaie de mettre ça en valeur et enseigner ça.
Et nous savons que depuis plusieurs années, vous entreprenez une mission de sensibilisation par rapport à la démystification des sciences occultes. Qu'est-ce que le centre pourrait faire par rapport à cette mission de démystification?
Bon, vous savez, dans chaque boulot, il y a ce qu'on appelle la vérité et le mensonge. Aujourd'hui, à travers, on a tellement de charlatans qui font du n'importe quoi, qui ne répondent pas de l'Afrique. Donc, il est temps de démystifier ce qui est mauvais et d'enseigner ce qui est bien, ce qui est réel.
Et il y a beaucoup de gens qui disent que malgré que l'Afrique dispose de tous ses talents sur le plan occulte, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, ce sont les problèmes qui minent l'Afrique?
Non, les problèmes qui minent l'Afrique, toujours, ça c'est, il y a des civilisations qui sont derrière ça. Il y a des Européens qui sont derrière. C'est l'Occident qui est derrière, avant l'indépendance. Depuis ce qu'on appelle l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, qui nous disent que notre connaissance, notre culture n'est pas vraie. Donc il est temps qu'on se réveille. Raison pour laquelle j'ai convoqué tous les rois d'Afrique à Bamako, les rois, les princes, les détenteurs de savoir occulte africain à Bamako, en conclave pendant une semaine pour essayer de discuter, voir qu'est-ce qu'on va mettre sur place.
Et si vous avez un dernier mot à l'endroit de la jeunesse africaine vis-à-vis de ce futur centre ou école qui verra le jour bientôt, qu'est-ce que vous voulez dire?
Mon dernier mot, c'est de donner des conseils. Qu'un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau, ne sera jamais crocodile. Donc, on ne dit pas que tout ce que l'Occident nous a amené est faux, on n'a pas dit ça, mais il est temps qu'on pratique notre connaissance à la africaine.
Mamadou Babou Niang, président du réseau panafricain de la science mystique et du patrimoine ancestral. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro. À la mise en onde, Georges-Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Portez-vous bien. À tout à l'heure.